La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume. Décidément, plus un jour ne se passe sans que la haine, d'où qu'elle vienne, s'invite brutalement à la première page des journaux. Alors que de nombreux quotidiens avaient choisi déjà hier, tel un effet miroir, de rapprocher en une les événements de Londres et Paris ce matin, les mots terrorisme et attentat se bousculent à nouveau, en particulier chez nos voisins belges, après qu'un kamikaze présumé a été abattu hier soir dans la gare centrale de Bruxelles. Les témoignages de scènes de panique, la fumée, les cris, les bousculades racontées ce matin dans les colonnes du Soir et de la Libre Belgique contrastent pourtant avec les quelques détails encore parcimonieux qui ont filtré sur cette attaque. L'assaillant, dont l'identité n'a pas été révélée, aurait crié, dit-on, quelque chose qui ressemblait à Allahu Akbar avant de déclencher une modeste explosion sur un chariot à bagages. Les personnes qui se trouvaient à quelques mètres seulement de là n'ont pas été blessées. Quant au niveau d'alerte dans la capitale belge, un cran en dessous du niveau maximal, il n'a pas été modifié. En réalité, ce qui occupe essentiellement ce matin la presse belge, c'est surtout la crise politique qui tourne désormais au séisme au sein du Parti Socialiste après le lâchage surprise de son partenaire centriste dans trois gouvernements régionaux de Wallonie. Les chrétiens démocrates du CDH ont annulé leur coalition avec l'EPS. Alors pour justifier ce retournement d'alliance inattendu à 2 ans des élections régionales, le parti centriste a mis en avant les affaires profondément choquantes qui, depuis des mois maintenant, touchent son partenaire socialiste. Il y a eu d'abord le scandale dit Publifin, du nom d'une société semi-publique dont des administrateurs socialistes sont soupçonnés d'emplois fictifs. Et puis, début juin, l'affaire dite du SAMU social qui a notamment poussé à la démission le maire socialiste de Bruxelles. Désormais, une chose est sûre, écrit l'éditorialiste du Soir, après la révélation de ces dernières affaires, un électrochoc était nécessaire. C'est là du moins la lecture positive de ce putsch, en clair, mettre un terme à une gouvernance déviante, réinventer des pratiques éthiques, lancer le renouveau et redonner l'espoir. Mais il existe aussi une lecture, disons, plus négative de cet événement, l'idée que le parti centriste fait là un calcul partisan, un coup politique. Il veut sauver sa peau, mise à prix par les sondages, en se déscotchant d'un PS désormais associé au scandale et après avoir pourtant longtemps gouverné avec lui, sans trop d'ailleurs dénoncer les dérives et parfois même avoir participé. Cette rupture est donc à la fois un fameux coup de théâtre et un coup de poker, ce moment où le parti centriste choisit de retourner sa veste et de rompre sèchement avec le parti socialiste. Alors évidemment, avec d'un côté un PS autrefois grand et puissant, aujourd'hui au bord du gouffre, et de l'autre un jeune leader centriste qui s'affirme en claquant la porte au nez de ses alliés, la politique belge rappelle de façon troublante la situation hexagonale. Et la comparaison n'est pas innocente, souligne De Morgan, car l'impact de la France sur la politique du sud francophone de la Belgique est immense. Or l'appel à un Macron wallon, dit-il, était déjà dans l'air depuis un moment. De là à établir un parallèle entre le PS français en lambeaux et le PS belge déchiré par les scandales, il n'y a donc qu'un pas. Et le journal d'en conclure, le leader centriste pense visiblement que le sort l'a choisi pour guider son peuple vers une nouvelle terre. Reste à savoir si l'électeur sera, lui, du même avis.
Et toujours au petit jeu des comparaisons, Thomas, à Taïwan cette fois-ci, c'est la nouvelle présidente, souvent comparée à la chancelière allemande, qui se trouve grandement fragilisée.
Oui, un an tout juste après son élection, la Merkel taïwanaise, comme on l'appelle, a beaucoup perdu de son aura. Celle qui est devenue la première femme présidente de l'île est passée en quelques mois de près de 70% d'opinion favorable à moins de 30%. Alors comment expliquer cette soudaine désaffection, interroge ce matin Le Temps. Les raisons de cette chute de popularité sont à chercher du côté des nombreuses réformes lancées depuis le début de son mandat, qu'il s'agisse de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite ou de la révision du temps de travail hebdomadaire. Tout cela s'ajoute une dépendance structurelle de l'économie taïwanaise envers la Chine. La question des relations entre Taipei et Pékin reste en effet là-bas un incontournable de la politique. Le refus notamment de la présidente taïwanaise de reconnaître l'idée d'une seule Chine a eu pour conséquence directe la suspension de tous les canaux de communication officiels par les autorités chinoises, de sorte que depuis, Pékin fait tout pour rabaisser le statut de l'île-État au simple rang d'un territoire chinois et priver ainsi sa dirigeante de toute forme de reconnaissance internationale.
Et toujours au chapitre relations internationales, la récente escalade de violence sur plusieurs fronts en Syrie inquiète également de plus en plus la presse internationale.
Une nouvelle phase du conflit syrien a débuté, peut-on lire ce matin sur le site de la chaîne américaine CNN. Nouvelle phase dans laquelle les puissances extérieures intensifient dangereusement leur implication. Lundi, simple coup de bluff ou menace réelle après la destruction la veille d'un avion syrien par les Américains, la Russie a interdit aux États-Unis de survoler le gros du pays, soit toute la partie située à l'ouest de la vallée de l'Euphrate. 24 heures plus tard, un avion de combat américain abattait cette fois-ci un drone de l'armée syrienne, faisant craindre à nouveau une escalade dangereuse du conflit. Sans compter que dans ce jeu de plus en plus tendu, l'Iran a lancé, elle, dimanche, une salve de missiles balistiques du côté de Deir ez-Zor. Là-bas, au-delà de la sévère répression infligée à Daesh, c'est surtout une guerre pour le contrôle de cette ville très riche en pétrole qui se joue, d'où le titre de cet article à lire sur le site de la Deutsche Welle, la guerre pour le butin. De sorte que déjà la question se pose, conclut l'éditorialiste du Temps ce matin. Les historiens verront-ils demain la victoire contre Daesh comme un simple épisode d'une guerre en réalité beaucoup plus vaste qui avait commencé bien avant lui et qui se poursuivra bien après sa disparition.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture. Et puisque vous nous parliez de la guerre en Syrie, on va continuer à évoquer la guerre avec ceux qui nous informent au risque de leur vie sur cette guerre, sur la guerre par exemple qui a lieu aussi en Irak. On va évoquer la mémoire des deux journalistes tués à Mossoul, Stéphane Villeneuve et Bakhtiar Haddad, et essayer de mieux comprendre dans quelles conditions et pourquoi ils pratiquent leur métier. 7h30 sur France Culture.